La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Ce matin, Camille, la presse britannique essaye de garder son sérieux face au dernier épisode du feuilleton Skripal à la télévision russe.
Et l'affaire est très sérieuse hein, avec cet empoisonnement début mars de l'ancien agent double Sergei Skripal et de sa fille dans la ville anglaise de Salisbury. Le poison Novichok a même tué cet été une victime collatérale, une autre habitante de la ville qui n'avait rien à voir avec l'affaire. Et voilà donc un rebondissement hier sur la chaîne russe Russia Today, interview exclusive des deux suspects identifiés par Scotland Yard sous le coup d'un mandat d'arrêt européen et présentés comme des agents secrets russes en mission commandée avec faux nom et faux passeport.
Nous sommes vraiment ceux qu'on vous a montrés.
Ruslan Bochirov,
Alexandre Petrov.
Alexandre Petrov.
Ce sont vos vrais noms ?
Oui. Oui, ce sont nos vrais noms.
Visiblement nerveux face caméra, Petrov et Borisov reconnaissent donc qu'ils sont bien les hommes dont les images s'affichent partout depuis 4 jours, qu'ils étaient bien à Salisbury la veille et le jour de l'empoisonnement des Skripal, mais qu'ils étaient là en simples touristes venus le plus banalement du monde visiter la cathédrale de Salisbury. Le Huffington Post britannique s'amuse de leurs explications très détaillées. Des amis nous avaient recommandé de visiter la cathédrale car elle est célèbre dans le monde entier pour sa flèche haute de 123 mètres et son horloge qui est la plus ancienne au monde a toujours fonctionner. Un luxe de détails que l'on retrouve en évidence sur la page Wikipédia consacrée à la cathédrale. Et voilà qui fait dire au HuffPost que l'alibi avait été savamment, mais peut-être un peu trop rapidement préparé. Moins ironique, le Times de Londres reprend les propos du 10 Downing Street, qualifiant l'interview de Russia Today d'insulte à l'intelligence, de tissu de mensonges et d'affabulations grotesques dans le Guardian. On ira tout de même un peu plus loin sur les possibles commanditaires de l'empoisonnement des Skripal. Le journaliste russe Alexei Kovalev signe une tribune où il explique que l'agent double à la retraite et sa fille ont certainement été victimes d'empoisonneurs russes, mais pas forcément de Vladimir Poutine en personne. L'interview est tellement risible que même la journaliste de Russia Today a du mal à garder son sérieux, analyse Kovalev. Même les plus loyaux des partisans de Poutine n'y ont pas cru. Alors, eh bien, soit le président russe a vraiment commandité l'empoisonnement et cet amateurisme dans la gestion des suites de l'opération ne lui ressemble pas, soit Poutine ne contrôle plus ses services de sécurité dont certains membres se rebellent et font littéralement n'importe quoi. Pour conforter cette thèse, Alexei Kovalev dans le Guardian rappelle l'étrange provocation en duel lancée en début de semaine par le chef de la garde russe à l'opposant Alexei Navalny. Je vous en parlais ici même mardi. Conclusion, il est tentant de voir Vladimir Poutine comme un despote omniscient et omnipotent, mais la réalité est peut-être beaucoup plus banale et beaucoup plus terrifiante.
Et puis il y a un mois, Camille, s'effondrait à Gênes le pont Morandi et sa reconstruction divise le gouvernement italien.
Et ça, c'est ce que nous explique ce matin, plusieurs analystes politiques dans la presse transalpine, à commencer par le Corriere della Sera qui, dès hier, en fait, pointait les contrastes, pour le moins, entre la Lega d'extrême droite et le mouvement 5 étoiles avec qui elle partage le pouvoir. La Ligue dénonce une vision trop centralisatrice du projet de reconstruction. Elle veut confier le dossier aux élus locaux. Le mouvement 5 étoiles, lui, préférerait une entreprise publique aux commandes comme le constructeur naval Ficantieri, par exemple. Il n'y a pas de campagne électorale pour le poste de commissaire de l'État en charge de la reconstruction, assure dans le Corriere, le gouverneur de la région de Ligurie, Giovanni Totti, qui fait tout depuis un mois pour obtenir ce poste. Mais difficile de ne pas voir les ambitions politiques et personnelles, les tensions qui en découlent au sein du gouvernement. Au point, a-t-on craint jusqu'au dernier moment hier soir qu'elle fasse capoter ses divisions, la présentation du décret d'urgence sur la reconstruction du pont. Au final, il a été présenté, ce décret, par le président du Conseil Giuseppe Conte. Mais Il Giornale, avec toute la presse italienne, note qu'il y manquait un nom, celui justement du commissaire qui dirigera les opérations et aura accessoirement à gérer des budgets conséquents. Et quand un pont effondré en cache un autre, Guillaume, je vous emmène à présent sur les bords du fleuve Niger, à la frontière entre le Bénin et le Niger, la ville de Malanville dont le pont s'est brisé net il y a un peu plus d'une semaine. Et depuis, nous apprend le site béninois banuto.info, c'est tout le transport routier d'Afrique de l'Ouest qui est paralysé. Plus de 730 camions immobilisés de part et d'autre du grand fleuve sur cette route qui relie toute la région au port de Cotonou. On craint même des pénuries si rien n'est fait sur les marchés du Niger et l'affaire concerne tous les pays voisins, nous confirme la BBC Afrique, car des ponts sur le Niger, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Avec celui de Malanville fermé, il faut détourner les camions vers le Burkina Faso, plus à l'ouest, ou le Nigeria, à l'est. À chaque fois, ça rajoute des centaines de kilomètres et des journées de route pour les chauffeurs routiers et leurs marchandises qui risquent de périmer en route, sans compter les problèmes de sécurité et de douane. Dans les colonnes de la Nation, l'édition de Cotonou, on lira les diligences du gouvernement béninois pour soulager les transporteurs. Le ministre des Transports assure qu'un pont temporaire va être construit d'ici un mois et demi. Il ne convainc pas franchement ses interlocuteurs, à en croire le journaliste qui a assisté à la réunion d'hier au ministère.
Merci beaucoup Camille Magnard. On retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr.